2. Voici maintenant toute l'info près de chez vous, présentée par Fabien Gazot.
Bonjour David, bonjour à tous. La mobilisation contre la réforme des retraites va connaître un nouveau temps fort mardi prochain. Mais des actions sont organisées en ce milieu de semaine, chez Elias Bus notamment. Un éventuel redécoupage des régions n'est pas souhaitable du point de vue de la Nouvelle-Aquitaine qui semble vouloir avancer dans le dossier de la modernisation de la ligne ferroviaire Saumur-La Roche. L'hôpital Nord de Sèvres propose une prise en charge globale de l'obésité chez les adultes avec des résultats probants. La sobriété heureuse pour faire face au pessimisme ambiant, c'est ce que propose Chrétien dans le monde rural ce samedi à Bruy-Chaussée. Enfin, le salon de l'agriculture exige la modération pour la dégustation des vins, y compris pour ceux du Thouarsais. Un homme a été interpellé hier matin par les gendarmes dans l'enquête liée à la disparition de Leslie et Kevin fin novembre à Prague. L'opération de gendarmerie s'est déroulée tôt hier matin à L'Aiguillon-sur-Mer en Vendée, au domicile de son père, proche du couple disparu. C'est dans sa maison de Prague que le couple devait dormir dans la nuit du 25 au 26 novembre dernier, après avoir dîné chez une connaissance à quelques mètres de là, toujours à Prague. Après avoir été interrogé dans le cadre de la procédure de témoin assisté, il a finalement été placé en garde à vue, suspecté par les inspecteurs d'être impliqué dans cette disparition. Il était retourné vivre chez son père à L'Aiguillon, donc, puisque sa maison a été placée sous scellé à Praec. Un feu de bâtiment agricole cette nuit à Courlay, à la Limousinière, un hangar de 300 mètres carrés abritant de la paille et plusieurs tracteurs entièrement embrasés à proximité d'une habitation. Également à proximité, 80 chèvres ont été mis en sécurité. L'intersyndicale appelle à une nouvelle journée de mobilisation mardi prochain. Elle est plus que jamais opposée à la réforme des retraites. Les syndicats espèrent que les manifestations seront de grande ampleur le 7 mars prochain et certains envisagent déjà des actions coup de poing. Comme c'est le cas du côté de l'IS Bus à Rorte hier après-midi, les syndicats de l'entreprise appelaient à un débrayage pour une assemblée générale afin d'expliquer aux salariés l'opération qu'ils comptent mener dans une semaine. Écoutez, Carole Rigal, elle y est déléguée CFDT, elle est au micro de Patrice Bémanangy.
On va faire un grand cortège à 20 km/h sur la 2x2 voies de chez nous, Rorte, jusqu'à Bressuire. En bouche, toute la 2x2 voies. Des voitures, ça c'est clair. À 20 km/h, tous les camions qui seront sur la 2x2 voies, ils seront derrière nous. Si on veut être entendu, il faut taper fort. Et comme Macron, il est un peu sourd, ah ben, je suis désolé, on va lui déboucher les oreilles.
Lors des précédentes manifestations, est-ce que la mobilisation a été relativement importante ici à l'US Bus?
La dernière qu'on a faite, il y avait 120 personnes dehors. Et là, je compte à plus de 200 personnes dehors. Ce n'est pas fini. Tant qu'ils auront fait cette réforme des retraites à 64 ans, avec 2 ans de plus travaillés, surtout les femmes aussi, hein, faut compter, ils disent qu'on fait plus d'enfants. Mais en même temps, si on fait des enfants, on est pénalisé par rapport à notre retraite. Donc je suis désolée, mais tant qu'on n'aura pas obtenu ce qu'on veut, on ne lâche rien.
Une opération escargot donc mardi prochain, au départ de l'IS Bus à Rorte pour rejoindre le rassemblement Bressuire prévu à 14h place Saint-Jacques en empruntant la RN 249. L'autre action entérinée hier après-midi, une grève reconductible au sein de cette même entreprise, l'IS Bus à compter du 7 mars. Ce soir, la CGT organise une retraite au flambeau devant la permanence de Philippe Mouillet à Montcoutant, alors que le texte de la réforme des retraites arrive au Sénat. Le président de la République a semé le trouble en annonçant qu'il voulait repenser le découpage de 4 régions, dont la Nouvelle-Aquitaine. Si la proposition d'Emmanuel Macron a séduit quelques élus, on peut citer la présidente du département, les élus de la région ne veulent pas que le travail entrepris depuis 7 ans maintenant soit balayé d'un revers de main, à l'image de Laurence Rouède, vice-présidente de la région en charge de territoire.
Bah, il paraît inopportun, il paraît surtout en décalage, je crois, avec ce dont les habitants et ce qui préoccupe les citoyens français de façon générale en ce moment. Je ne pense pas que c'était leur sujet de se lever en disant, tiens, on va casser les grandes régions. Et puis surtout, on y a beaucoup travaillé, on s'est investi, on est structuré, les partenaires sont structurés aussi à cette dimension-là. On se démultiplie sur le territoire pour justement être au plus près. Pourquoi revenir en arrière alors que ça ne date que de 2015.
Laurence Rouède de passage à Bressuire en fin de semaine dernière lors de la signature du contrat avec l'agglo de B, moment choisi par Emmanuel Charré, conseiller régional élu référent sur le territoire, pour réaffirmer la volonté de moderniser la ligne TER entre La Roche et Saumur, dont le coût réévalué à 150 millions d'euros a pu refroidir les collectivités. Dans le même temps, les annonces d'Elisabeth Borne sont de nature à relancer un certain optimisme, puisque la première ministre a annoncé une nouvelle donne ferroviaire avec un plan de 100 milliards d'euros d'ici 2040. Emmanuel Charré.
Il faut qu'on se remette autour de la table avec nos collègues des Pays de Loire pour absolument rénover cette portion entre Bressuire et La Roche. Ce que j'ai entendu, moi, c'est beaucoup d'annonces pour les métropoles. Je pense qu'il faut ne pas oublier aussi les territoires ruraux qui, eux aussi, ont besoin de transports ferroviaires, d'autant que les infrastructures existent. Et nos collègues allemands, autrichiens, suisses savent faire. Ils savent mailler leur territoire. Donc j'espère que Madame la Première Ministre va aussi faire des efforts pour la France.
Pour nos concitoyens, le plan se traduira par davantage de trains, une meilleure ponctualité et des temps de parcours moins longs. A souligné Elisabeth Borne, c'est à ces conditions et à ces conditions seulement que le train sera pleinement une alternative attractive et crédible à la voiture, a-t-elle indiqué aussi. Plusieurs organisations de Sévriennes politiques et associatives appellent à un rassemblement en soutien au peuple palestinien en début de soirée à Niort à 18h30 devant la préfecture. En bref, toujours et sur le plan politique, Poitou Populaire, nouveau mouvement, vient de voir le jour sous l'impulsion de militants ou anciens militants de la France Insoumise, des Deux-Sèvres et de la Vienne. Le Deux-Sèvrien Axel Urbain, candidat aux législatives sous l'étiquette NUPES, a été nommé secrétaire. Véritable service à la population, la prise en charge médico-chirurgicale de l'adulte atteint d'obésité morbide ou sévère porte ses fruits à l'hôpital Nord de Sèvres, comme le souligne ici le directeur délégué Bruno Bonin.
Le recrutement du docteur Buenos il y a 3 ans nous posait question de savoir si cette activité avait une nécessité absolue sur notre territoire. Et les années nous ont donné raison d'effectuer ce recrutement, puisque le besoin est réellement présent sur le territoire et on voit l'accroissement des demandes qui arrivent, qui se développent, et donc qui nous a rassurés sur le fait d'avoir installé cette activité dans notre établissement.
3 ans après l'ouverture de ce service qui a généré plus de 6000 consultations, un service coordonné par le docteur Buenos, chirurgien viscéral et bariatrique, un service vital quand on sait que selon l'OMS, l'obésité reste la 5e cause de mortalité. C'est un véritable fléau, insiste de son côté le docteur Pain, Frédéric Pain, urgentiste, président de la CME, commission médicale d'établissement à l'hôpital Nord de Sèvres.
Un fléau parce qu'elle engendre beaucoup de maladies, dont le diabète, et le diabète est lui-même à l'origine des infarctus, des accidents vasculaires cérébraux, des problèmes d'artérite, des problèmes respiratoires. Donc, combattre l'obésité, c'est faire reculer toutes ces maladies.
Et une fois cette réalité rappelée, on comprend mieux l'importance de ce service. 465 patients déjà suivis avec une prise en charge globale. Un postulat qui sonne désormais comme une évidence. Il faut privilégier la qualité des soins à la quantité. La prise en charge médico-chirurgicale ne peut pas être résumée à une opération chirurgicale, souligne le docteur Patrick Buenos, également au micro de Jacqueline Pinon.
En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la chirurgie n'est pas le traitement de l'obésité. La chirurgie est une composante du traitement. Ce qui est important, c'est que la personne qui a 150 kilos reprenne des habitudes de vie compatibles avec le poids qu'elle souhaite atteindre. Donc il faut qu'elle change effectivement son activité physique, sa façon de s'alimenter. La prise en charge psychologique et sexologique est également importante. Le fait qu'elle retrouve une silhouette agréable. Donc il y a plusieurs points sur lesquels il faut travailler si on veut avoir un résultat global, surtout qui tienne dans le temps. Parce que je ne sais pas si une personne qui perd 50 kilos, 60 kilos, qui se retrouve avec une silhouette très dégradée, pourra se reconnaître dans ce résultat et se battra pour le défendre.
Et c'est bien cette prise en charge globale ici qui fait la différence.
Oui, parce que c'est nécessaire d'avoir une prise en charge de proximité. Parce qu'effectivement, si les personnes devaient à chaque fois faire 1 heure de trajet retour pour se rendre dans un grand centre, etc., ben ça serait moins facile. Et puis parce que, comme vous l'avez noté, il y a une psychologue, il y a une sexologue, il y a une diététicienne, il y a un chirurgien. Donc ça fait beaucoup d'intervenants. Et donc c'est nécessaire qu'effectivement ces intervenants soient disponibles et soient de proximité.
L'obésité, la maladie des pauvres dans les pays riches, concluait le docteur Pain. À l'hôpital Nord de Sèvres, aucun complément d'honoraire n'est pratiqué afin de permettre à des populations fragiles financièrement d'accéder à ce service de prise en charge de l'adulte obèse. Choisir la sobriété heureuse face au pessimisme ambiant, c'est ce dont on débattra samedi prochain, le 4 mars, en après-midi à Bruy-Chaussée.
Sobriété heureuse, c'est pas par hasard si on choisit ce thème, c'est que depuis quelques mois, il est souvent question de sobriété, mais malheureusement, c'est une sobriété souvent imposée. On nous en parle comme une sobriété imposée à cause des crises successives et ce qui se passe au niveau économique. Alors que la sobriété peut aussi être un choix. Un choix et pouvoir vivre peut-être d'une autre façon, mais sans se sentir pénalisé et vivre tout à fait de façon très heureuse.
Mais pas forcément une contrainte.
Sans contrainte. Je pense aussi qu'il est important d'y réfléchir à deux fois, parce que si on ne sait pas de vivre la sobriété heureuse, on risque de la vivre sous la contrainte, et là on le vit mal et il y a des conséquences souvent mauvaises.
Étienne Gobin, que vous venez d'entendre au micro de Jacqueline Pinon, et membre de Chrétiens dans le monde rural 79, qui compte 130 adhérents au sein de 15 équipes réparties à Bressuire, Mauléon, Clessé, Maucoutan, mais aussi en Gâtine et dans le Saint-Mexantais. Pour animer cette conférence débat, l'association a invité Arnaud Ducré, ingénieur agronome et économiste engagé pour la justice sociale et l'écologie. Christiane Baudrinolo est la présidente de Chrétiens dans le monde rural, également au micro de Jacqueline Pinon.
Arnaud Ducré nous vient de Loire-Atlantique. C'est quelqu'un qui a été ingénieur agronome, qui a beaucoup travaillé autour de la solidarité sur la ville de Nantes, dans pas mal d'associations autour de l'emploi. Et aussi, il a travaillé sur l'encyclique Laudato Si, qui est sorti il y a environ 7 ans. Et il a mis en place des formations pour vulgariser cette encyclique.
Et là, ce jour-là, sur cette conférence, alors vous allez en fait pouvoir poser des questions, mais vous questionnez en groupe d'abord ?
Il va d'abord y avoir un apport de la part d'Arnaud Ducré pendant une heure et quart. Et après, il y aura une mise en petit groupe, en 6-6, on dit 6 personnes pendant 6 minutes, grosso modo. Puis après, chaque petit groupe pourra poser ses questions à Arnaud Ducré. Et il y aura un débat qui va s'installer entre lui et la salle.
Éclairer, voir, juger et agir, ce sont les valeurs d'éducation populaire auxquelles se réfère le mouvement chrétien dans le monde rural pour proposer ce temps fort sur la sobriété heureuse qui se tiendra à la Broglianne de Bruy-Chaussée ce samedi 4 mars de 14h à 17h. L'entrée ouverte à tous bien sûr et gratuite. Le salon de l'agriculture exige la modération pour les vins, y compris pour ceux du Thouarsais. Le salon parisien a établi une sorte de code de bonne conduite, comme l'explique Benoît Christène, directeur de la maison du Thouarsais, l'office de tourisme, au micro-colline de Dominique Hérault.
Après le Covid, tout le monde s'est un petit peu rué sur ce type de salon et s'est un petit peu lâché, notamment sur la consommation d'alcool. Donc les organisateurs ont fait très attention au retour et à l'image que ça peut donner. Donc tous les participants, et particulièrement ceux qui vont valoriser le vin, devront faire très attention, et c'est normal, pour servir en petite quantité et puis être davantage là pour parler du produit que pour le faire consommer. Parce qu'on est là surtout pour parler du Thouarsais et pas uniquement pour boire du vin, évidemment.
Et signalons à propos de la participation du Thouarsais au Salon de l'agriculture à Paris que Gilles et Alain Lemoine du domaine des Lemoine à Saint-Pierre-à-Champs ont décroché une nouvelle médaille d'or au concours des vins du concours général agricole lors de ce salon. C'est la première fois que leur Sauvignon 2022 est récompensé du prix le plus élevé. Un petit mot de sport, Cholet Basket a franchi sans trembler l'obstacle constitué par Saint-Chamond, équipe de Pro B hier soir en 8e de finale de la Coupe de France avec une victoire 93-76. CB se qualifie pour le top 8 à l'Arena Loire de Trélazé et affrontera l'ASVEL en quart de finale le samedi 18 mars. Coup d'envoi à 20h30.
Quel temps aujourd'hui ? Découvrez la météo avec Seolis, votre fournisseur d'électricité et de gaz en Deux-Sèvres.
Le soleil domine très largement cet après-midi et si le vent vient toujours du nord-est, il souffle moins fort avec une moyenne de 20 ou 25 km/h au maximum de l'après-midi, ce qui nous vaut une légère progression des maximales qui pourront monter à 8-9 degrés. Demain, un peu plus de nuages le matin, mais sans conséquence, l'après-midi s'annonce même encore bien ensoleillé. Côté température, jusqu'à -4 demain matin. Dans l'après-midi, on retrouve les mêmes valeurs.